création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Nous sommes près de Nîmes en compagnie de Salvatore Puglia. Qui se souvient du camp Saint-Nicolas où de juin à septembre 1940, 2000 personnes anti-nazis, originaires d'Allemagne et d'Europe centrale, y furent regroupées et triées. Max Ernst, arrêté comme étranger ennemi, y fut interné, tout comme Leon Furtwängler, qui lui consacra un ouvrage au titre évocateur, Le diable en France. Ce lieu discret, non loin d'un camp militaire, est aujourd'hui lieu de baignade. Ce soir, une toute autre mémoire surgit au souffle des marcheurs et de la composition sonore de Philippe Poirier. L'enregistrement binaural est signé Bernard Lagnel. Une marche en garrigue, Dominique Balahi, Nathalie Salle. Création on air.
Ça, c'est le chemin de fer qui vient de Alès et qui rejoint celui de Nîmes. Maintenant, ce n'est que des pavillons un peu de banlieue. Avant, il y avait sûrement le terrain de la grande ferme dont parlait. Voilà, supposons que ça soit ici, c'est très vraisemblable que ce soit ici, parce que d'ici part un chemin. Attends, je vais faire demi-tour. Qui va tout droit. Voilà. Non, je pense ici c'est le lieu le plus vraisemblable. Le guide de la garrigue, Patrick, il doit se connaître mieux que moi un chemin ici.
Une marche en garrigue.
Rez-de-chaussée de ma maison de Sanary, dans la petite pièce où se trouvait la radio. J'étais seule, allongée sur le divan, et j'écoutais les informations. La situation n'était pas brillante, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas. Je méditais les yeux fermés sur ces bribes d'informations, allongée sur mon divan, et j'écoutais d'une oreille distraite les communiqués officiels qui suivaient le bulletin. Thank you.
suis artiste, j'ai fait une installation sur les justes du Gard. Et c'est à cette occasion-là où j'ai lu par-ci, par-là, de l'existence d'un camp pour internés allemands pendant l'été 40, près de Nîmes. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était le camp de Garrigues. Et alors que finalement, au bout de plusieurs mois, mais j'aurais pu mieux lire mes documents, parce que déjà dans un article des années 90, on faisait bien de M. Grandjonc, on faisait bien la distinction entre un camp préexistant pour les républicains espagnols, où ensuite ont été aussi acheminés des Allemands et Autrichiens, qui était le camp de Garrigues, qui était dans une localité qui est au moins à 5 km de celle où je pense avoir repéré l'existence de ce camp Saint-Nicolas. J'étais assez surpris que dans un camp d'une telle importance, parce que c'est quelques milliers de gens, il n'y ait aucune trace déjà physique sur le lieu. Et donc, je me suis dit qu'il fallait y apposer en signe une stèle sous une forme ou une autre. Et je pense que je vais faire ça avec une association nîmoise très active, Mémoire et Histoire, qui a déjà fait placer des plaques à la gare de Nîmes, devant le Conseil Général. Et je pense qu'on fera ça, avec le temps nécessaire dans les prochains mois, on le fera. Mais pour pouvoir poser une plaque ou une stèle, il faut de la précision, il faut ce qui est possible de trouver comme documentation.
Wenn jemand in Europa gut lebte, dann sagte man von ihm, er lebe wie Gott in Frankreich.
Si ce camp est méconnu, c'est pour différentes raisons. D'abord parce qu'il a eu une durée de vie extrêmement courte, hein, puisqu'il a été ouvert le 27 juin et il a fermé le 1er septembre 1940. D'autre part, il est directement lié au camp des Milles, à côté de Marseille. Et donc, je pense que la plupart des documents, mais ça reste modeste à mon avis, se trouveraient plutôt aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Mais je pense qu'elles sont extrêmement modestes, et sur le plan quantitatif, et aussi sur l'apport qu'elles représentent pour qui veut en savoir un peu plus sur ce camp. Au niveau des traces matérielles, je pense qu'il y a aussi une autre raison, c'est que les internés étaient sous des tentes marabouts, donc les traces matérielles n'ont pas traversé les décennies. En fait, l'histoire du camp de Saint-Nicolas s'inscrit directement dans l'histoire du camp des Milles et plus largement dans celle des camps d'internement français ouverts déjà à la fin de la Troisième République. Hein. Il n'est pas question de régime de Vichy. Et donc, la Troisième République va mettre en place un système de camps.
Oui, ça c'est des voitures de chasseurs. Je ne sais pas si on pourrait accéder au site. Je ne sais pas si j'aurais envie de défier les chasseurs, moi. Là, on reconnaît l'ancienne route de Uzès. Donc, elle passe sur la gauche de celle-ci, plus au nord. Et donc elle passe à proximité de ce mas Saint-Nicolas où probablement il y a eu le camp dont il est question. Celle qu'on voit au fond est encore l'ancienne route du Zès, qui monte jusqu'au sommet, un lieu dit le pavillon, et puis redescend sur le gardon en lacet. Et ici à gauche, on ne le voit plus parce qu'il est à l'état de ruine, il y a le mas. Je vais me garer dans la ruelle ici. Donc après, il faudra faire à pied environ peut-être 500 mètres dans le maquis.
Ce sont donc ces ressortissants allemands et autrichiens, juifs et non-juifs, qui sont internés au camp des Milles, entre autres, qui vont voir leur confiance dans la France, terre d'accueil, et leur crainte par rapport à ce qui va leur arriver lorsque la victoire allemande va se préciser. Certains d'entre eux ont déjà fait l'expérience en Allemagne de camps de concentration. Certains ont été à Dachau, par exemple. Et la France, comme c'était le cas à d'autres périodes et dans d'autres pays, parce qu'on a fait la même chose en France au moment de la Première Guerre mondiale et en 39, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ont fait la même chose, interne tous ces ressortissants allemands et autrichiens en tant que ressortissants allemands sans se poser la question de savoir que ce sont des opposants politiques au régime, que en fait on pourrait certainement, je m'excuse pour l'expression, mais en tirer un meilleur profit pour la France qu'en les internant. Enfin, c'est des gens qui pourraient être utiles sur différents plans. On tient pas compte du fait qu'une majorité d'entre eux sont juifs et que donc a priori ils peuvent pas tellement être suspects de sympathie pour l'Allemagne nazie. On interne en fait tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que, en juin 1940, un nombre croissant d'internés, en particulier aux Milles, fait un peu de forcing auprès de l'administration du camp pour trouver une échappatoire possible. L'un de ces délégués informels, bien sûr, des internés des Milles, c'est justement l'écrivain Feuchtwanger qui va essayer de faire pression pour qu'on leur permette de quitter le camp des Milles.
Quelque chose d'énorme. Tout à coup, il était là. On pouvait le voir. De l'endroit même où la veille, nous avions supposé la présence de wagons, nous pouvions deviner au loin quelque chose qui ressemblait à un train. Mais cette fois, c'était bel et bien le nôtre.
On a aussi beaucoup exalté le rôle du commandant Goruchon, le commandant du camp des Milles, qui, semble-t-il, effectivement, n'était vraiment pas un forcené de la répression, ni un xénophobe convaincu, et qui, effectivement, semble-t-il, est intervenu pour faire affréter un train. Il n'a pas pu le faire pour le 21 juin comme c'était prévu. Donc le départ a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 juin 1940. Il faut d'ailleurs signaler que le stress était tel dans l'attente du départ de ce train que quelqu'un comme l'écrivain Walter Hasenclever s'est suicidé en absorbant du véronal au camp des Milles, persuadé que de toute façon ce train ne partirait jamais. Bon, en fait, il est bel et bien parti avec 2010 internés à son bord, donc ressortissants du Reich, et encadré essentiellement par des soldats algériens, des soldats des troupes coloniales à l'époque. Donc ce train est passé par Marseille, par Arles, par Sète, dans des conditions tout à fait difficiles. Ensuite, il a traversé Toulouse, Tarbes, Lourdes, Pau. Et puis, il s'est arrêté dans la gare d'Oloron-Sainte-Marie, ce qui a fait craindre aux internés qui connaissaient de réputation et de sinistre réputation le camp de Gurs, ce qui leur a fait craindre justement d'être transférés à Gurs. Et puis en fait, le train a poursuivi sa route et le 25 juin, il est arrivé en gare de Bayonne. Et donc là, c'est panique générale. Le train repart en fait en sens inverse. Alors de nouveau, c'est Toulouse. D'ailleurs là, les internés apprennent la signature de l'armistice qui a été ratifiée le 22 juin. Ils apprennent aussi la signature de l'article 19 de la convention d'armistice qui ouvre la possibilité et même la consigne pour le gouvernement de Vichy de livrer les opposants politiques au Reich vainqueur. Et en fait, le 27 juin, le train s'arrête à Nîmes. Donc les gens sont effectivement épuisés.
Nous ne savions toujours pas où l'on allait nous emmener. Dans les environs de Nîmes, il y avait deux ou trois endroits qui pouvaient éventuellement servir de camp. Tout semblait indiquer que nous aurions à faire une longue marche à pied. La marche en elle-même ne nous faisait pas peur. Mais qu'allait-il advenir de nos affaires? Il serait très fatigant de les porter dans les montagnes.
Donc ici, c'est après la gare de Nîmes. Et c'est l'endroit où les voies ferrées se multiplient. Et donc il y a un terrain très large. Il y a un grand pré, bon, parsemé de cailloux, mais c'est plus ou moins un pré comme était décrit dans le livre de Feuchtwanger. Et le lieu est très large parce qu'il y a l'embranchement avec le chemin de fer qui vient de Alès. Et donc il y a de l'espace pour que, après le pont, et plusieurs voies puissent être côte à côte. Je pense ici, ils ont dû passer la nuit du 26 au 27 juin, quand le train qui avait rebroussé chemin de Bayonne les a déposés. Le commandant du convoi avait dû chercher un peu partout où il pouvait caser ses internés. Et il y avait déjà un camp militaire ici, avec déjà un camp d'internés, et donc la disponibilité de ces tentes marabouts qu'ils ont utilisées. Et après, à partir du chemin de fer, ils auraient eu une marche apparemment 14 kilomètres. Avant, je pensais que ce champ de tir était l'emplacement du camp parce que c'est le seul endroit plat dans le coin. Mais après, on a fait une visite et on a vu que peut-être l'emplacement serait vraiment tout à fait à proximité du mas, environ un demi-kilomètre d'ici. Il faut penser qu'il y avait donc pour 2000 et quelques personnes, 11 personnes par tente, donc ça fait au moins 200 tentes qui doivent faire un diamètre 5-6 mètres, donc il faut au moins un kilomètre carré pour pouvoir caser toutes ces personnes. Il parlait d'arbres de mûrier et je crois qu'il y en a par là dans ce deuxième lieu. En fait, on suit la route, on voit. Je pense que c'est même une bonne manière d'arriver par la façade principale.
J'étais seule. Je n'avais pas été seule ainsi depuis des semaines. Et ce jour-là, je me trouvais en outre au milieu d'une grande prairie sous un ciel bleu. Tout autour de moi, je voyais un paysage vallonné, des montagnes bleutées dont le sommet se perdait dans la brume. À présent, je me retrouvais là, jouissant de cette merveilleuse liberté.
Ça, c'est le faux fenouil. C'est la ferula, mais Patrick doit connaître mieux que moi. Elle est très dangereuse pour le bétail. Parce que quand elle est petite, les animaux reconnaissent. Mais quand le cultivateur fauche, il fauche ça avec l'herbe, donne ça à manger aux vaches qui tombent malades jusqu'à en mourir. C'est représenté dans les vases grecs. On voit les bacchantes qui, avec leur tirse, suivent le cortège de Dionysos. Mais c'est très bon pour les champignons parce qu'il y a un champignon qu'on appelle le hansarde, le bout de viande, le morceau de viande, le ferlengo. Et c'est très bon, c'est presque une nourriture qui peut remplacer un plat principal.
Après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres, nous arrivâmes devant un vieux portail monumental sur lequel, en lettres ornementées, on pouvait lire la mention « Saint-Nicolas ». Ce portail donnait accès à la cour d'une ferme qui semblait ouverte depuis longtemps. Cette ferme et ses environs étaient manifestement destinés à devenir notre nouveau lieu de résidence. Pour nous, il n'y avait qu'un grand pré planté de mûriers et entouré de bois et de prairies. Nous étions épuisés par notre longue marche et nous avions soif.
Ouais, il y a peut-être une borne ici, hein. Il y a peut-être sûrement un chemin, peut-être une borne. Moi, je pense que c'était un relais de poste. Je pense que c'était un relais de poste parce que il y a une route qui remontait au nord depuis l'époque romaine. Et forcément, on reconstruit toujours sur des vestiges romains. Donc, je pense qu'il y avait ce qu'on appelait un mancio, une sorte d'auberge à l'époque romaine. Et qu'on a reconstruit la route, elle devait pas être très loin. Donc les routes romaines, elles étaient toujours bordées tous les 15 km d'un relais de poste et d'une auberge. Et donc là, on est à 15 km, donc ce serait parfait pour qu'il y ait un relais de poste romain. Et du coup, depuis des siècles, il y a des vestiges d'habitation. Ah ouais. On voit qu'il y avait plusieurs pièces, hein, un étage, sûrement un escalier, une cheminée. On voit encore la marque de la cheminée, la trace du feu, la trace des fenêtres. Donc, il y aura une cuisine pas très loin. Et bien sûr, la broussaille typique, typiquement du sud de la garrigue. Ouais. Voilà une marque d'escalier, une abside. Des belles pierres prêtes à tomber sur notre tête. Des marques de... Encore une marque là. Ah ouais, c'est plutôt des chasseurs qui sont passés là, hein, qui ont laissé des traces. Ouais, c'est une immense bâtisse. Hein. Une immense bâtisse typique du 18e, 19e siècle. Une réserve à nourriture. Une réserve à nourriture, mais bon, la végétation a repris sa place. Et là, on a des figuiers. On peut continuer à manger. Cette plante est typiquement de la garrigue. Thank you.
puis dont il est question dans le livre de Forstfang, il dit que ça servait pour 20 personnes. Mais puis après, ils ont eu des citernes, ils ont eu de l'eau potable, des camions de citernes qu'ils ont amenés. Avec Dominique, on était allé par là, on s'est dit que ça aurait pu être un emplacement possible. Parce que la végétation a eu tout le temps de repousser, et parce qu'on a trouvé des infimes traces de fils de fer, ou de barbelés même. C'était pas par là?
Non, non, un peu plus bas. Il faut prendre le chemin de terre. On peut aller voir maintenant?
Oui.
C'est ce qu'on suppose être le quadrilatère, où ont été plantées les tentes marabouts. C'est un endroit où il y a une espèce de seuil, une espèce de frontière invisible. Mais effectivement, tu peux repérer, il y a des bouts de piquets métalliques, peut-être un peu de barbelés au sol. Enfin, c'est de l'ordre de la trace, là. Je pense que ce qu'on entend, c'est une curée, là. Je pense que des chiens ont levé un sanglier. Et ça ressemble, vu le niveau d'excitation, ça ressemble à une mise à mort. J'espère qu'on va pas tomber au milieu de ça. Ils sont pas très loin, ils doivent être à moins d'un kilomètre.
C'est ici, tu penses ici?
Non, c'est un peu plus loin. Ça commence à devenir un peu quadrilatère. Là, on se rapproche des chiens. La végétation devait être dégagée, et si tu tiens juste là dans le tournant, tu vois qu'il y a une vue. Voilà, et tu vois, ce serait ici. Regarde, nous on imagine que c'était là, regarde. Et même juste là, ce serait une entrée possible. Voilà. Effectivement, quand tu passes par là, tu vois un peu de barbelé, tu vois des piquets. Et là, surtout, tu vois le dessin. Tu vois un espèce de dessin.
Et en plus, bon, là, vu qu'il n'y a plus de végétation, ils ont dû piétiner cette végétation pendant des mois. Ça a du mal à repousser.
Ils sont plus loin du tout, là. Donc, je pense qu'on va peut-être se mettre... on va se revenir vers le Mas Saint-Nicolas.
Ça se fait face au Mas, hein, puisqu'on le voit, là. Hein.
Voilà.
À une centaine de mètres, il y est, hein.
Il se rapproche.
Il y avait en outre un excellent chansonnier viennois. Nous lui demandâmes de nous chanter le chant des marais, cette chanson simple chantée par les Allemands que les nazis avaient internés, une chanson qu'il est impossible d'oublier quand on l'a entendue une fois. C'est l'un des chants les plus douloureux du monde et nous le fredonnions avec lui. Nous étions donc là, à boire et à chanter, et à travers le toit de feuilles de la baraque, nous apercevions le disque roux de la pleine lune, et tout autour de nous, il n'y avait que puanteur, cris, trafic, rire, désespoir et maladie. Au cours de cette semaine, un homme s'était suicidé et un autre la semaine précédente.
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
C'est repéré dans le texte de Fejonger, hein, de cette partie-là. c'est là où les où il y avait l'administration du camp.
Je pense que c'était plutôt, oui, l'administration, sûrement dans la maison qui devait être intacte. Ici, peut-être le réfectoire de la troupe, des soldats, ou peut-être même le dortoir, vu la grande cheminée. Bon, c'était en été, apparemment, ça n'a pas servi. Il n'y a pas de traces de fresques, de décoration ici. C'était juste un lieu utilitaire. Il y a une très grande cheminée qui sert encore aujourd'hui, je crois, aux chasseurs qui sont autorisés à venir le dimanche. C'est un beau dallage au sol. Et puis après, il y a les tags, dans toute ruine qui se respecte. Les signatures des militaires qui sont passés après.
Le chef de corps du 2e régiment étranger d'infanterie. Donc je commande entre 1200 et 1300 légionnaires qui sont stationnés sur Nîmes. Alors pour moi ici c'est CT6. Très concrètement, c'est le champ de tir qui est juste derrière vous, qui est l'endroit où nous on va systématiquement. Et ici, je vous avoue, hein, j'ai regardé un petit peu et en fait je me suis fait la réflexion qu'alors que depuis 20 ans je viens dans ce camp, je ne suis jamais venu ici à Saint-Nicolas. On a cherché exactement, parce qu'on connaît très bien le pont Saint-Nicolas, mais cet ancien relais d'Igillan, j'avoue que je n'y ai jamais mis les pieds. Pourtant, il est en bordure du camp. Effectivement, nous, on utilise plus la partie immédiatement proche du chantier pour nos exercices de manœuvre, etc. Mais donc là, on est vraiment sur la bordure la plus proche du Gardon. Hein, puisque derrière moi, on est en direction de Uzès. Le bas du Gardon, en fait, est la fin du camp des Garrigues. Voilà, ensuite, on va taper sur Poux, hein, dans cette direction-là, et on va revenir ensuite sur Nîmes, et donc d'ici jusqu'à Nîmes, en fait, hein, jusqu'à la fin du camp bâti, on va avoir toutes les infrastructures de champs de tir.
J'ai vu dans les cartes, et j'ai vu que là, ici, on est vraiment à cheval entre les communes de Nîmes et de Sainte-Anastasie. La commune de Nîmes fait comme un triangle qui arrive presque ici. Et ici, on est dans la commune de Sainte-Anastasie. Donc, c'est peut-être la partie qui a été louée successivement.
Oui.
Et peut-être tout simplement parce que ces masses avaient été abandonnées.
Le camp lui-même a une structure particulière qui fait qu'on interagit à la fois avec la ville de Nîmes, avec Poux, Sainte-Anastasie et toutes les municipalités alentour. Ce camp, il a été créé à la fin du 19e siècle. Et l'origine militaire, c'est tout simplement la défaite de 1870, défaite de Sedan, où donc, comme la France avait perdu une partie de l'Alsace et de la Lorraine, il a fallu rapatrier vers le sud tout un tas de formations. Les retours d'expérience de l'époque avaient dit que ce qui manquait aux militaires à ce moment-là, c'était à la fois des fonctions d'état-major et aussi des capacités d'entraînement. Voilà, donc bon, la partie état-major, c'est là, à ce moment-là qui a été créée l'école de guerre d'ailleurs. Et on a créé des grands camps dans lesquels les régiments pouvaient venir s'entraîner de manière permanente. Et à cette époque-là, 1870-1880, la ville de Nîmes a accepté de donner en usufruit une partie de ce camp actuel pour pouvoir y accueillir un corps d'armée, qui était à l'époque le 15e corps d'armée. Voilà, donc il y a cet usufruit qui est toujours en cours en termes de gestion. Ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, l'armée a acheté différentes terres, hein, qui lui appartiennent en propre. Et ensuite, la troisième mode d'organisation administrative, en fait, c'est qu'on loue, notamment à la ville de Poux et la ville de Sainte-Anastasie, un certain nombre de terrains, qui nous sont nécessaires pour qu'on puisse se déployer, pour à la fois avoir une zone de manœuvre, qui est plutôt du côté de Pousse d'ailleurs, et une zone de tir, qui est la partie plutôt historique, hein, puisqu'on a une vingtaine de champs de tir qui sont tout autour de ce camp et qui sont tous dirigés sur un seul axe, hein, qui est une zone ensuite qu'on considère nous comme polluée, dans laquelle tous les déchets de tir arrivent, hein, et qui permettent de tirer en toute sécurité. Voilà. Ensuite, une relation avec le syndicat mixte de Gardon pour la partie faune, etc.
Moi, j'aimerais en savoir un peu plus. Patrick pense que ça appartient, comme c'est le même intitulé que le pont Saint-Nicolas de Campagnac, qui appartenait à l'évêché de Uzès et qui est dans la commune de Sainte-Anastasie. Et Patrick faisait l'hypothèse que ça appartenait aussi à l'évêché de Uzès, que ça a été abandonné et ensuite donc vendu. Était disponible, oui, vendu ou loué, je ne sais pas.
Parce que ici, vous avez des terres qui... dont les armées sont propriétaires de plein droit, et puis d'autres qui sont louées, effectivement. On signe ce qu'on appelle des AOT, des autorisations d'occupation temporaire, hein, qui sont reconduites régulièrement avec la mairie de Pousse, avec celle de Sainte-Anastasie. Militairement parlant, hein, 1940, c'est quand même un désastre militaire, mais aussi politique, civil. Enfin, c'est l'effondrement moral de toute la société française. Hein. Quand j'ai lu les petits documents qui m'ont été donnés, notamment sur l'histoire de ce MAS, moi, j'ai pensé à un bouquin que j'ai lu il y a quand même un certain temps. C'est L'étrange défaite de Marc Bloch, qui raconte cet effondrement moral en 1940. Juste avant l'offensive de mai 1940, tous les Français étaient persuadés qu'on allait gagner. Et il y a eu un effet de sidération qui a fait que tout s'est effondré. Et je vois très bien, ou j'imagine très bien, effectivement, l'espèce d'état d'hébétement qu'il y a dû y avoir à cette époque-là, avec notamment bah, effectivement, ces Allemands, ces Autrichiens bah, qui avaient fui le régime nazi, qui disaient bah, « moi je suis en sécurité en France, et puis bah, là, ça y est, les Allemands arrivent ». Et bah, ils ont été trimballés d'un point à l'autre, pas forcément avec un gros suivi administratif, parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'État. L'armée s'est effondrée, mais c'est au-delà de l'armée, c'est l'État qui s'est effondré. Et c'est bien tout le drame de 1940.
Oui, et ce qui explique la situation très paradoxale oui. De ce camp. Non, donc il y avait à la fois la clause 19 de l'armistice.
Il devait sortir, voilà. Vu qu'il ne passe pas par la porte principale, il pouvait passer à travers les barbelés, et puis rentrer le soir. Ou...
Ah, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je m'imagine à la place du responsable du camp, ces gens, effectivement, ils fuient. Enfin, ils étaient en France parce qu'ils fuyaient le nazisme. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'ordre, plus d'administration. Il n'y a pas besoin de mettre des barbelés, les gens... Vous voulez qu'ils aillent. Il y a par ici 15 km Nîmes, 20 km Uzès, le Gardon. De même, bon, ils allaient boire un coup, ils allaient se baigner dans le Gardon, mais en fait, ils revenaient parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et avec toujours cette peur qu'un jour, bah, peut-être on vienne les chercher pour les emmener quelque part.
Il y avait des intellectuels, des peintres qui étaient déjà bien enracinés en France. Il y avait Max Ernst qui avait une maison en Ardèche. Je pense qu'il a dû, lui aussi s'est évadé. Je pense qu'il a dû juste marcher jusqu'à chez lui. Mais d'autres, effectivement, ne savaient pas où aller. Elles étaient accompagnées à la, au gardon pour se baigner, pour laver le linge. Disons que ce n'était pas des conditions épouvantables, c'est des conditions difficiles et pas épouvantables. La réelle source d'angoisse n'était pas tellement les conditions de vie au jour le jour, mais la possibilité d'être livré aux nazis, c'était ça. C'était déjà émigré ou réfugié, donc c'était pour la plupart des opposants. C'était ceux qui avaient demandé déjà à fuir le camp des Mille. Donc c'était des gens qui avaient tout à craindre de l'arrivée de l'armée allemande. Je crois que ça, c'était surtout la source d'angoisse. Et puis, sûrement pour beaucoup, l'impossibilité de parler la langue, le manque de papier, donc il n'y avait pas de raison de s'échapper non plus. Et pourtant, si on trouve des traces dans les archives de ce camp, c'est parce que dans une ville française, qui peut être Grenoble ou Pau, on avait en 40 repéré des Allemands qui étaient évadés de ce camp. Donc les quelques traces d'archives qu'on a, c'est oui, à cause de ça, de ces évasions, de ces quelques évasions. Je pense qu'il s'est vidé progressivement jusqu'à la fin de septembre, ça a duré 3 mois.
Les derniers lacets là en voiture avant d'arriver au parking qui est juste là. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui parce que c'est un lieu de baignade qui est très prisé des gens du coin, pas trop des touristes parce que c'est un petit peu exigeant là. Il y a une demi-heure de marche. C'est un lieu qui est très connu, c'est un des plus beaux lieux du Gard.
Tournage de film, très simple. Le salaire de la
peine. On va descendre et puis on va se mettre en marche. On va attaquer cette marche peut-être pour une demi-heure.
Un chemin qui fait plus de 2 km et qui va nous amener sur les berges du Gardon qui démarre un petit peu plus haut dans les Cévennes et qui se sépare en plusieurs morceaux. Nous allons dans les endroits les plus anciens de la région hein, car les premiers hommes habitaient dans les grottes. La Baume d'ailleurs veut dire une grotte, hein, la Balme on peut dire aussi. Donc là nous avons un paysage typique de Garrigues hein, avec les chênes verts, les chênes blancs, le chêne kermès, toutes ces plantes qui piquent, qui sentent, les insectes. Donc on voit au fond de cette combe une carcasse de véhicule. On peut imaginer donc le camion de Yves Montand qui a dévalé la pente lorsqu'il y a eu le tournage du film d'Henri-Georges Clouzot, Le salaire de la peur, hein, qui est sorti en 1952. Donc logiquement, ce film se passait en Amérique du Sud, mais ils n'avaient pas les moyens de tourner en Amérique du Sud, et donc ils ont tourné dans différents lieux de la région, dont les gorges du Gardon. Et donc c'est aussi une ancienne route, une ancienne départementale, donc il y a
pas mal de véhicules qui n'ont pas forcément eu des accidents, hein, mais qui ont été abandonnés, volés, et on va dire abandonnés au fond de la vallée. C'est un endroit qui a été aussi, pendant les guerres des Cévennes, pendant les guerres de religion, fréquenté par énormément de camisards, hein, donc de soldats protestants. On peut imaginer qu'ils se cachaient dans ces grottes. Et ils étaient chassés par les dragons du roi, qui étaient les soldats catholiques de Louis XIV. Donc là, ça descend, ça va. Mais tout à l'heure, il faudra remonter. Et là, même en étant fin septembre, il fait chaud. Et on va trouver d'ailleurs un restaurant. Bon, il est plus ouvert, vous verrez, hein, il est plus en état. Mais c'était une belle hostellerie au début du XXe siècle.
C'est dans ce restaurant qu'a lieu la dernière scène du livre de témoignages de Fritz Wenger. Le dernier jour qu'il a passé au camp Saint-Nicolas, le jour de son évasion. Donc c'est au retour d'un déjeuner dans cet hôtel. Et Fritz Wenger nous donne le menu dans son livre. Il a pu déguster 3 vins ce jour-là pour accompagner son entrée, son poisson et son dessert.
Je crois qu'il a fermé un an après, en 41, ce restaurant. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui descendaient de Pouls pour pêcher la truite. Donc forcément, c'était un restaurant où on devait manger pas mal de poissons. Et il a fermé en 41.
Il reste quelques terrasses aménagées. On traverse les terrasses en fait pour accéder au jardin.
Là, on arrive donc face au Gardon, face à l'ermitage. On est tout proche du restaurant où nous avons des cyprès qui nous accueillent. Hein, car en Languedoc, 2 cyprès, c'est le gîte et le couvert. En Provence, c'est 3. Ils ont plus de moyens, faut croire. Hein, eux, ils ont la bienvenue, le gîte et le couvert. Et donc, on voit ce Gardon qui est magnifique et qui est transparent. On voit les pierres, d'ailleurs, hein, qui sont juste... sous l'eau. Hein. D'ailleurs, on dit que c'est le pays où pousse la pierre, hein, la garrigue. Il faut savoir là qu'il y a une résurgence, donc l'eau est froide, hein, l'eau est fraîche. Et on voit cette couleur verte, émeraude, un petit peu, hein, assez fantastique. Et ce calme. Allez.
Le commandant du camp nous donna l'autorisation de nous baigner dans la rivière. Au cours de ces journées étouffantes, quelques centaines d'hommes descendaient tous les après-midi vers la rivière. Il y avait une bonne demi-heure de marche. Un sous-officier et quelques soldats nous accompagnaient, mais ils ne s'occupaient pas de nous, évaqués à leurs propres affaires. Die Lagerleitung erlaubte uns im Fluss zu baden. Cette rivière, dont je ne sais plus si à cet endroit elle s'appelait le Gard ou le Gardon, formait des gorges profondes dans cette région. Celle où nous allions nous baigner offrait un environnement varié. À tel endroit, le courant était assez fort, à tel autre, l'eau courait de façon si discrète qu'on y nageait comme dans un étang. Ici, il y avait des rives rocheuses escarpées, là des coteaux verdoyants, là encore des forêts. Quiconque aurait vu ces quelques centaines d'hommes de tous âges qui se baignaient nus dans la rivière, s'ébattaient au soleil, riaient, bavardaient, se coursaient, nageaient, plongeaient, montrant toutes les prouesses dont ils étaient capables
ne se serait probablement pas douté qu'il s'agissait de prisonniers dont la vie, pour certains, était menacée, et dont aucun ne savait ce qu'il allait advenir de lui. Wer die paar hundert Männer sah, Männer jeden Alters, die sich da nackt im Wasser und in der Sonne tummelten, lachend, schwatzend, sich jagend, schwimmend, tauchend, ihre Künste zeigend, wäre schwerlich auf den Gedanken gekommen, dass er es hier mit Gefangenen zu tun hatte, von denen manche am Leben bedroht waren und von denen kaum einer wusste, was aus ihm werden sollte.
Feuchtwanger s'est échappé juste avant l'arrivée, quelques jours avant l'arrivée de la commission Kunt. Il a eu de la chance parce que, apparemment, c'était l'ennemi public numéro un. Et dans son livre, il dit qu'il pensait qu'il n'y avait que 200 ou 300 personnes qui couraient des risques. Mais je pense qu'il ne savait pas, il ne se rendait pas encore compte de l'intérêt que les nazis auraient eu pour les juifs juste après. Si vous vous souvenez, en ce moment-là, en juin 40, plutôt, ils n'avaient pas encore mis en place la solution finale. Par exemple, ils ont envoyé à Gurs toutes les personnes âgées du Palatinat, ah, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, ils voulaient encore se débarrasser des Juifs dans ce sens de nettoyer leur territoire, pas encore nettoyer l'Europe, disons.
Sur les 2000 et quelques internés du camp de Saint-Nicolas, qui sont majoritairement ramenés aux 1000, finalement au cours du mois de septembre. Mais effectivement, certains d'entre eux ont réussi à s'évader. C'est par exemple Feuchtwanger, qui est pris en charge par le comité de Varian Fry, un comité américain qui s'intéresse particulièrement aux intellectuels, aux artistes, etc. Et donc lui va partir aux États-Unis. C'est d'ailleurs là qu'il écrira Le Diable en France, le récit de son internement aux 1000 et au camp de Saint-Nicolas. Et en fait, il va rester aux États-Unis jusqu'à la fin des années 50, où il va mourir. D'autres, en fait, seront finalement déportés lorsque le régime de Vichy sera installé, lorsque ils se trouveront pris dans le filet. D'autres vont survivre à la guerre. C'est le cas du peintre Max Ligner. Il a laissé beaucoup de dessins de Gurs. C'est pour ça en fait qu'il est connu. Mais il a fait partie des internés de Saint-Nicolas. C'était un militant communiste. Hein. Et en fait, il a réussi à s'échapper. Il est devenu agent de liaison dans un réseau de résistance. Et en 1949 ou 1950, il est parti s'installer en République démocratique allemande. On peut aussi, parmi les internés du camp de Saint-Nicolas, parler de Franz Essel, qui était le père de Stéphane Essel. Mais enfin, en lui-même, il était écrivain, c'était le traducteur de Proust en allemand. Donc c'était un juif d'origine polonaise, né à Stettin, et il va être libéré du camp des Mille. Il va se réfugier à Sanary-sur-Mer, où il y avait toute une colonie de réfugiés allemands antifascistes. Bon, c'est un homme qui a déjà près de 70 ans, et il est tout à fait épuisé par ce qu'il a subi, et il va mourir à Sanary en 1941. Donc en fait, il y a des cas très divers. On connaît bien sûr Max Ernst, qui lui aussi aura la vie sauve et sera aidé. Je pense que là aussi, il y a des différences selon qu'on était un intellectuel ou un artiste reconnu pouvant bénéficier de soutien, ou un citoyen lambda plus démuni. Ça, c'est un schéma que l'on retrouve dans toutes les situations.
Jamais je n'étais frappé, bousculé, ni même injurié. Le diable en franc, c'était un diable aimable, plein de manières. Ce que sa nature avait de diabolique se manifestait seulement dans l'indifférence courtoise dont il faisait preuve face aux souffrances des autres, dans son je m'en foutisme et sa lenteur administrative. Nous avions constamment l'occasion de faire l'expérience de ce diable-là. Le fait qu'il fût ainsi était presque encore pire que s'il s'était montré cruel et méchant. Nous aurions pu plus aisément nous défendre contre la bassesse et la cruauté que contre l'esprit de système et le je-m'en-foutisme. Le diable auquel nous avions affaire était un diable mou, un diable mollusque, le diable en France. Quand on s'en prenait à lui, il n'offrait aucune résistance, au contraire, il semblait se retirer, s'échapper, mais ce n'était que pour mieux prendre ses aises ailleurs.
Radiophonique de Dominique Balahi. D'après les recherches de Salvatore Puglia. Musique originale Philippe Poirier. Lecture Barbara Schroeder. Avec Salvatore Puglia, Anne Greenberg, Patrick Miglietta, le colonel Carleton, chef de corps du 2e RUI. Merci à la galerie Sit Down à Paris et au Temple protestant de Nîmes pour leur accueil. Prise de son binaurale, mixage, Bernard Laniel. Réalisation, Nathalie Salle. Coordination, Susan Gergaillan, Irène Omelianenko. Création en air, 2017.
Cette création est disponible en podcast. Demain, dans Création On Air, porte ouverte aux écoles d'art sur le thème de la métamorphose. Dans Sound Factory, Victoria Pacheco propose Vocamorphosis et Claire Bertolotti, une fiction documentaire. Les artistes font l'école sans l'école au sein de l'école.